France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Les écrivains célèbres, par définition, tout le monde les connaît, les a lus, ou peut-être prétend les avoir lus. Les écrivains plus secrets, plus confidentiels, par définition aussi, peu de gens les connaissent. Mais alors, les rares lecteurs sont de vrais et passionnés, et peut-être jaloux, lecteurs. Ces écrivains, on les redécouvre régulièrement, parce qu'on les réédite régulièrement, et aussi régulièrement, on les oublie. Quelques titres de l'auteur à venir. Le rôdeur, Alcyon, La licorne, La ligne de force. C'est un parcours homogène, une vie romanesque, la nostalgie de l'impossible, une attraction pour la clochardisation. C'est un sauvage, un irréductible exceptionnel, selon l'une des intervenantes de l'émission qui suit. Une force qui ne craint pas la faiblesse. Il est temps d'écouter le Surpris par la nuit, consacré à la redécouverte de Pierre Herbart. Première diffusion sur France Culture, 24 mai 2000.
J'allais mon train, pied d'aller n'importe comment, rêveusement ou à fond de course, humant je ne sais quelle piste. Surpris par la nuit. Pierre Herbart, 1903-1974, le grave et le distrait. Déjà, je l'aimais. C'est-à-dire que près de lui, j'éprouvais cette défaillance secrète du cœur qui ne m'a jamais trompée. La lèvre retroussée de pétrole, la ligne si fraîche de sa mâchoire, ses yeux très légèrement obliques, toujours un peu clignés, et dont l'iris d'un bleu pervenche était marqué de deux petits points sombres. Tout ce visage, enfin, je ne pouvais le contempler sans un incompréhensible déchirement, un sentiment de paradis perdu. Était-ce l'idée qu'il se flétrirait ou que je le perdrais? Que je cesserais de l'aimer? Est-ce la brusque certitude que la beauté ne se possède pas? Qu'aucune étreinte ne peut vous la livrer? Qu'il faudrait la saisir autrement qu'en jouissant d'elle? Mais que les hommes ne disposent d'aucun autre moyen d'entreprendre sa conquête? Ce fut mon plus grand tourment de ne pouvoir forcer les places fortes où elles se retranchent. J'ai compris ceux qui veulent déchirer, détruire l'objet de leur amour. La plus harmonieuse entente physique ne change rien à ceci, que l'essentiel de ce qui compose le désir demeure inassouvi. On ne peut posséder un sourire, mais seulement l'écraser avec sa bouche. Vous l'avez rencontré, Herbart, vous, Raphaël Sorin?
Oui, j'ai vu dans des circonstances tragiques, d'ailleurs, de manière totalement imprévisible, puisqu'il était question, avec mon ami Guégan, que nous fassions un livre d'entretien. Et là, il s'est passé quelque chose qui a été très fort, quand même, pour moi. C'est que, entre-temps, évidemment, je n'avais pas la moindre idée que ça allait se passer comme ça. Entre-temps, Herbart a été frappé par une attaque d'hémiplégie, très grave, et il était à peu près incapable de parler. Il était donc à moitié paralysé, on peut dire, allongé sur un lit chez son ami dans le Vieux Grasse. Et ce qui m'a frappé, bon, c'est que je me suis trouvé devant une sorte de gisant, avec un visage magnifique, des yeux intenses, des gestes d'impatience, il avait sa canne contre lui, un visage avec une barbe déjà un peu de moribond, un visage émacié, quelque chose de très fort. Mais j'étais un peu comme un idiot, j'ai dû rester une heure avec lui, je lui ai parlé un peu de, au fond, qui j'étais, qui nous étions, pourquoi on venait le voir, ce qui allait se passer. Je lui ai promis que je parlerai à son éditeur, que j'essaierai de faire que ses livres soient réédités. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, et en face, il y avait quasiment le silence, quoi. Quelques bribes, quelques mots arrachés à l'hémiplégie. Et je suis parti vraiment avec l'idée qu'il allait mourir et que c'était mieux pour lui, puisqu'il avait l'air de souffrir atrocement, de ne plus pouvoir s'exprimer. Et il est mort effectivement quelques mois après.
Il ne vous a rien dit ?
Non, quasiment, des mots. À un moment donné, je voulais commencer par le début, j'ai commencé par l'enfance, par Dunkerque. Et là, j'ai senti que de toute façon, il n'avait pas envie de parler de ça, quoi. Mais vraiment, c'était étrange comme situation, puisque j'arrivais avec toutes mes questions, et puis je les ai remballées, je suis reparti, j'ai repris le train le lendemain.
Il est mort, il a été jeté à la fosse
commune.
Oui,
alors là, c'est discuté, des gens disent que non, mais je pense qu'effectivement, comme il n'avait pas d'argent, il a dû au moins provisoirement aller où vont les gens très pauvres, c'est-à-dire, si ce n'est pas la fosse commune, ça y ressemble. Et surtout, il y a eu très très peu de dommages, je crois me souvenir, que nous avons été trois à écrire dans des journaux ou quelque chose. Brenner, bon, qui était resté fidèle. Nadeau, qui l'avait aussi très bien connu. Et moi, donc ça fait peu, ça fait trois fleurs pour un grand écrivain.
Comprenez bien, dit Herbart, qu'il s'agit là d'un conflit aux proportions métaphysiques, l'éternel duel entre le jour et la nuit. Je suppose que la nuit, c'est vous. Ils ont quitté ensemble la Chèvre d'Or et marchent dans les ruelles où le soleil donne presque d'aplomb. Imbécile, dit Herbart. Cher imbécile, regardez les pierres de ces murs. Quand le soleil leur tombe dessus, comme à présent, ces pierres sont une musique. Les creux, les saillies, les petites ombres, les petites lumières sont une musique. Mais il faut savoir écouter. Et pour cela, avoir de l'oreille.
Moi, j'ai découvert Herbart en lisant les premières lignes de la ligne de force. Je ne savais pas qui c'était. C'est un nom que j'avais dû trouver ici et là, peut-être dans les livres de La Petite Dame ou dans des livres sur Gide, mais qui ne m'avait pas frappé. Mais dès qu'on ouvre la ligne de force, on s'aperçoit qu'on est en présence d'un grand écrivain. Quelque chose de frappé, c'est de la bonne monnaie. Hein. Vous savez, on reconnaît la fausse monnaie au bruit qu'elle rend quand on la laisse tomber. Là, on s'aperçoit tout de suite qu'on est devant un grand écrivain. À la fois un écrivain français, il y a ce côté. Bon, je ne dirais pas que c'est Benjamin Constant, mais il y a peut-être dans l'autobiographie, la manière de se peindre soi-même et de peindre les autres, ce côté précis, exact. Et puis, il y a quand même ça vibre à l'intérieur. Enfin, on sent que c'est quelque chose d'une très grande qualité, une très bonne vibration. C'est ça qui est séduisant. Bon, sinon, le reste aussi est bien. Mais l'ayant peu connu, quasiment pas connu, je peux pas dire que ce soit sa personne qui m'ait attiré. C'est sa manière d'écrire.
C'est même parfois lyrique, hein, du lyrisme arrêté, mais
il y a du lyrisme, oui, il y a, par certains côtés, bien qu'il soit différent, il y a peut-être un peu la même chose dans les bons textes de Cocteau. Une ligne très pure, comme on dit aujourd'hui, une ligne claire, mais une ligne claire qui vibre, c'est un peu comme une corde tendue. Et ça, c'est une qualité très rare, qui est presque innée, enfin, je pense que ça se travaille pas en soi, et c'est comme la démarche, c'est comme le sourire, quoi, c'est quelque chose d'assez difficile à définir, et qu'on ne peut vraiment comprendre qu'en en lisant, quand on a lu à peu près toute l'œuvre d'Herbart, ce qui est facile, puisqu'il n'a pas une œuvre abondante, on s'aperçoit qu'il y a toujours. Parfois, c'est un peu gâché dans les romans, certains romans, par un côté un peu vieilli d'époque, vous savez, le côté marin embordé, enfin, une espèce de romantisme un peu facile, qui ressemble un peu aux chansons populaires. On est un peu dans la chanson de Frêle ou de Damien, mais même ça, ça ajoute au charme. Ça date les livres et c'est pas mal que ce soit daté.
C'est vrai que dans tous ces livres, il y a une atmosphère comme un attrait lancinant. Il y a quelque chose de lancinant.
Il y a des choses de menaçant. Hein. Il y a, voilà. Il y a la recherche du coup de couteau, du mauvais coup. Hein. C'est pas un homme tranquille et décrit un univers où il peut arriver des choses terribles. Il y a toujours des menaces. Il y a toujours, le bonheur est toujours menacé. Le bonheur est toujours fragile et souvent il est fracassé. Et ça passe dans l'écriture. Cette écriture qui a l'air sereine, elle est traversée d'orages, mais c'est des orages secrets, souterrains. Et c'est ça qui en fait la dimension et la beauté. Et qui en fait aussi la partie inexprimable et difficile à analyser. Il y a du mystère là-dedans.
Du mystère. On a parfois l'impression d'être dans un rêve. Il y a d'ailleurs, dans presque tous les livres de Pierre Herbart, des scènes de sommeil regardé.
Oui, de somnambulisme aussi. C'est vrai qu'il y a un côté voyeur. Hein. Ça, c'est le côté pervers, peut-être. Les gens qui dorment sont des gens qui sont en état de faiblesse, en état de dépendance. Et le rêveur est quelqu'un qui est le somnambule. Moi, je crois que c'est un peu la démarche d'un somnambule. C'est quelqu'un qui, en même temps, a une démarche très sûre, très, très maîtrisée. Et en même temps, il peut tomber à chaque instant. Donc, on a l'impression qu'au bout de chacun de ses paragraphes, il peut dégringoler. Il se rattrape avec élégance, quoi. Et il repart d'un bon pied.
Fabien dormait. On aurait crié son nom sur la plage qu'il n'eût pas entendu. Il était bien trop occupé.
La veilleuse brûle. Il est là.
Je le voyais dans un rayon de lune.
Il dort.
Il tremblait.
C'est à peine une chambre.
Se retournait d'un bond et, à travers ses dents serrées, poussait parfois une espèce de gémissement.
Plutôt un débarras, mais il y a un lit de fer.
Je lui offris ma main qu'il saisit.
Il dort.
Et cela dut faire rebondir
son rêve. Un bras replié sous la tête, l'autre derrière, offrant
il
la
luttait,
paume d'une petite
courait,
main allée.
Apostrophait les lâches et les indécis.
Ses cheveux bruns descendent jusqu'aux sourcils, sans les cacher.
Il mettait le feu à la forêt.
Et Martial ne peut s'empêcher de tendre
soutenait
le bras
l'assaut
de loin
de ses poursuivants.
Et d'effleurer du bout des doigts un de ses sourcils.
Il était celui qui se cache, celui dont on n'a pas retrouvé le corps, et qui nage toujours, comme un ours, toute griffe dehors.
Dans le foin qu'on vient de faucher, Denis et Luc dorment. Ils sont vêtus de leurs slips et de leurs maillots de coton, noir pour Luc, blanc pour Denis.
Penché sur son visage,
Martial éteint
je
la
suivais
lampe.
Les phases de sa lutte.
La lune qui est pleine inonde le grenier
enfants,
par la grande ouverture qui sert
loups,
à monter le foin.
Je n'éprouvais qu'un déchirant amour.
Martial regarde longuement Denis, hoche la tête. Il s'approche de Luc, se met à genoux pour le voir de plus près. Il dort comme d'habitude, une main sous la tête, l'autre ouverte près de sa
joue. Dans son sommeil, le matelot avait passé un bras sous la tête de Loulou.
Martial appuie sa tête au coussin du fauteuil.
Tourné vers elle, il dormait.
Bientôt, Juliette n'en peut plus douter,
la
il s'est endormi.
La bouche posée sur l'épaule de la jeune femme.
Elle s'approche pour le regarder de près.
Elle reposait dans un anéantissement qui donnait à Serge une nostalgie de sommeil.
Il a son chandail à trous.
Ses yeux.
Son vieux pantalon de velours.
Ses lèvres maquillées.
Ses pieds nus reposent par terre,
croisés. Creusait un visage irréel.
Parfois, un de ses pieds a un tressaillement. Juliette voudrait le prendre dans sa main. Cet homme qu'elle aime, elle ne peut pas.
Cet homme qu'elle aime, elle ne peut pas.
Elle n'ose pas le toucher.
Elle n'ose pas le toucher.
Pour les enfants traqués comme des loups, je n'éprouvais qu'un déchirant amour. Il tend vers la nuit ses mains jointes. Comment vivre, mon Dieu.
Herbart n'était pas un écrivain très célèbre, il n'a pas écrit beaucoup de livres, à peine une dizaine, des récits courts, secs, pas très épais. Il faut donc avoir l'œil pour les apercevoir dans les librairies, les bibliothèques. Et avant de le lire, il faut le découvrir. Comment est-ce que le premier livre de Pierre Herbart vous est-il arrivé entre les mains, Jérôme Dastier ?
C'est tout à fait par hasard, enfin... Je l'ai trouvé dans une librairie. Le premier livre, en fait, c'était Le Rôdeur. Ce qui m'étonne un petit peu rétrospectivement, c'est qu'il n'y ait pas eu un seul ouvrage d'Herba dans la bibliothèque de mon père, qui l'a peut-être rencontré. Enfin, je n'ai jamais eu l'occasion, parce que j'étais beaucoup trop jeune quand il est mort, de lui en parler. Et cette absence de livre d'Herba dans sa bibliothèque m'étonne un petit peu rétrospectivement. D'autant que l'une des choses qui m'a intéressé chez Herba au début, c'est justement certains points communs avec mon père. Bien entendu, l'opium, que Herba a connu pendant longtemps, avec des désintoxications successives, des retours. Enfin, il semble qu'il ne se soit jamais totalement débarrassé, qui n'est jamais totalement rompu avec ça. Bon, mon père a été pendant 20 ans opiomane, à peu près à la même époque, c'est-à-dire avant-guerre. Donc l'opium, ensuite le journalisme. Mon père a commencé dans le journalisme, notamment en collaborant à Marianne et à Vendredi, qui sont les deux principaux journaux auxquels collaborait Herba avant la guerre. Ensuite, bien entendu, le communisme. Bon, dans le cas d'Herba, il était au parti pendant quelques années. Il y a un décalage là dans la chronologie, parce que Herba s'est engagé beaucoup plus tôt que mon père, puisque c'était dans les années 30, et qu'il a rompu ensuite, qu'il s'est éloigné du communisme déjà bien avant la guerre. Ensuite, la résistance, évidemment. Un quatrième point de rencontre, comme ça, et l'écriture aussi. Également, l'espèce d'étiquette comme ça qu'on attribue parfois à Herba et qu'on a parfois attribué à mon père, de désinvolture, comme ça, que je n'aime pas beaucoup, d'ailleurs. J'aime pas beaucoup ce mot appliqué à Herba. Je l'ai lu sous la plume de plusieurs auteurs ou sur des quatrièmes de couverture, comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on persiste à lui attribuer ce qualificatif, parce que lui-même, il dit à ce sujet quelque chose dans la ligne de force. Il dit « incapable de désinvolture », c'est à la fin de la ligne de force, « incapable de désinvolture, voilà comme nous sommes ». Car on ne se laissera pas prendre, j'espère, par celle qui se fait jour à travers ce livre.
De vous, Charlotte Ayot, je sais une chose, c'est que vous vous êtes occupée du chat de Pierre Herba.
Oui, je me suis occupée du chat, je crois... occupé de lui aussi, tout à fait indirectement, mais je l'espère efficacement jusqu'à la fin de sa vie, aidé en cela par d'autres amis. Et moi, je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais très jeune, il était admirablement beau. C'était chez mon ami Roger Stéphane, place Vendôme. Il était accompagné d'un jeune garçon. Et j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Il y avait une grande conversation sur le trotskisme, conversation contradictoire. J'étais assez fascinée. Et au terme de cette conversation, j'ai dit à Roger, Stéphane, à quel point je le trouvais séduisant. Roger a éclaté de rire et m'a répondu, tu n'es pas la seule, mais n'y compte pas. Et j'ai oublié tout ça pendant quelques temps. Et puis... se trouve par un concours de circonstances, un tout petit peu provoqué par moi, je dois le dire, j'ai retrouvé Pierre et nous avons commencé ce qui a été une très grande passion pendant de longues années. C'était quelqu'un d'exceptionnel, de tout à fait marginal par rapport à l'ensemble des intellectuels de son époque. Il avait fait une résistance foudroyante, fabuleuse. Il était quelqu'un, comme vous le savez, de totalement en dehors de tout ce qui était les honneurs, la représentation sociale. Il était l'élégance même, avec quelque chose d'un peu sauvage, d'un peu totalement irréductible à n'importe quel concept que moi j'ai pu rencontrer par la suite, complètement, mais exceptionnel. Il n'aimait pas manger, il n'aimait pas tellement parler, il n'aimait pas tellement la vie mondaine. Ce qu'il aimait, c'était le chocolat meunier à croquer, les œufs sur le plat, parler avec moi, voyager et fumer de l'opium quand il en avait. Voilà. Si vous voulez savoir d'autres choses, vous me les demandez. Je ne sais pas. C'est difficile de parler à bâton rompu de quelqu'un avec lequel on a vécu d'une manière si étroite. On peut dire des choses toutes petites, on peut dire des choses considérables. C'est quelqu'un qui avait un sens de l'humour assez ravageur. Je me souviens, je ne sais pas si on vous a raconté cette histoire que je trouve merveilleuse, que quand il a été recevoir le général de Gaulle qui voulait le remercier à la préfecture de Rennes des services qu'il avait rendus, il a rencontré quelqu'un qui s'était bombardé une grosse rosette sur sa veste, et il s'est penché, et il avait à ce moment-là deux paires de lunettes, un monocle, une autre paire de lunettes dans la poche, tout ça plus ou moins, avec des branches qui manquaient toujours, et il a ajusté le monocle, et il a dit à ce monsieur très décoré, « Je vous demande pardon, monsieur, vous brûlez. » En lui secouant. Là, et je dois dire que les gens ont été assez enchantés de l'affaire. Il était capable de choses comme ça, il était capable d'une insolence prodigieuse. Il était très... Il parlait très très bien, il a écrit un très beau livre sur Gilles, il en parlait très bien. Et il avait cette espèce d'art extraordinaire de conserver sans arrêt une distance presque absolue avec tout ce dont il traitait. Il était la distance même.
Rien ne m'atteint. Personne ne me tuera, moi. Depuis 10 ans que je traîne dans les bouges, j'ai gardé intactes mes joues, intactes mes sourires, intactes mes yeux. Rien ne prend sur ma peau. Il faudrait inventer un acide. Et sans doute resterai-je inaltérable comme ces cœurs de vierge que le bûcher ne consume point. Je passe à travers les balles, je marche dans le feu, je reviens indemne. J'ai marqué la vie des autres. Eux ne m'ont rien fait.
Et ça, est-ce que ça veut dire que de temps en temps, on était dans... Est-ce qu'on le touchait de temps en temps? Est-ce qu'on avait l'impression de le toucher? Parce que cette distance, elle est absolue.
On le touchait à travers la chose la plus abominable, je crois, dont il a le plus souffert, qui était une jalousie inimaginable. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jaloux. C'est ça qui rendait, quand il était passionné, et comme il ne pouvait être passionné que comme tous les passionnés, que rarement, mais quand il l'était, c'était terrible. Il en souffrait terriblement. Alors là, il était touché. Il était touché, il faisait mal et il avait mal. Mais c'est le seul moment où je l'ai connu autrement que distant. C'est étrange. À ce moment-là, il collait à une réalité qui n'était pas la réalité, comme tous les jaloux, qui était une réalité complètement imaginaire, et il y adhérait complètement. Complètement. Pour se faire souffrir.
Ce qui est drôle, c'est que le moment où il était le plus réel, finalement, c'était justement sur des points d'irréalité.
Totalement. Mais il a toujours vécu dans une sorte d'irréalité. Vous connaissez son parcours, j'imagine, très bien. Donc, bon, il est très indiqué d'une manière précise dans la ligne de force. Tout y est, depuis le début jusqu'à la fin. Quelqu'un qui passe de la guerre en Chine avec André Violis à la Russie soviétique, à la Révolution espagnole, à la Résistance. Enfin, c'est quelqu'un dont le parcours est à la fois homogène et colle chaque fois à une aventure qui est une aventure quasiment romanesque. C'est ça qui est très curieux. Tout a été... Il a vécu sa vie... D'ailleurs, c'est pas une chose étonnante s'il a, pour André Malraux, cette espèce de tendresse et de qu'il n'avait pas facilement et qu'il a pour lui. Parce que je crois qu'il reconnaît quelque chose qui était la nostalgie de l'impossible, qui était pour lui très forte.
Il dit assez souvent le sentiment du paradis perdu.
Paradis perdu, pour lui, c'est l'adolescence, c'est l'enfance. C'est sa mère, l'adolescence, l'enfance.
Sa mère, son frère.
Il adorait sa mère. Il n'a plus jamais été tout à fait le même après la mort de sa mère. Il l'adorait. Et il a eu une enfance... Non, il n'a pas beaucoup vécu avec son frère. Il a beaucoup vécu avec sa mère. Enfin, jusqu'au moment où il est parti. Il est parti très jeune, puisqu'il était chez Lyoté à l'âge de 16 ans. À l'arrache. Donc, sa vie a commencé très tôt. Très, très tôt. Il a pris conscience assez rapidement de son pouvoir physique, d'une très, très grande beauté, et conscience aussi que sa manière de ne pas être, de ne pas exister, au sens intégré du terme, lui ouvrait des portes complètement particulières. Il avait un pouvoir particulier. Un pouvoir d'attraction quand il parlait, un pouvoir de conviction, un pouvoir de séduction, qui tenait sans doute à un désintéressement total. Il ne voulait rien. Il ne voulait rien posséder, rien avoir. Il avait à la fin de sa vie une sorte d'obsession du non-être, du clochardisme, qui était tout à fait curieux.
Comme son père.
Comme son père.
C'est une histoire extraordinaire que Herbart évoque dans Les souvenirs imaginaires. Ce père qui est fils de notable, d'une famille très bourgeoise, riche, puisque le grand-père d'Herbart était armateur, etc. Donc ce père qui, tout d'un coup, est en rupture de banc totale, hein, devient, se clochardise, et puis finit dans un fossé tragiquement. Bon, et ce père qui d'ailleurs n'était vraisemblablement pas le père naturel, biologique d'Herbart, ce qui complique encore la chose. C'est assez extraordinaire parce que ça veut dire que dès le début de sa vie, donc il est un bâtard et qu'il y a une sorte de double, comme ça, de doublon du père. Il y a le père biologique, le vrai père qui aurait été un agent maritime d'origine danoise, bon, ce qui expliquerait la blondeur, le teint, un aspect physique comme ça de Pierre Herbart. Et en même temps, ce père-là donc meurt, il ne le connaît pas, et en même temps, le père officiel, le mari de sa mère, disparaît alors qu'il a 5 ans. Bon, donc il est déjà là. Aux prises dès l'enfance avec la disparition, la fuite. Et c'est assez étonnant de voir que, d'une certaine manière, quand il épouse Elisabeth, quand Pierre Herbart épouse Elisabeth, beaucoup plus tard, il reproduit un petit peu le schéma qui s'était joué entre ses pères et puis sa mère, puisqu'il prend la place de Gide, en quelque sorte, auprès d'Elisabeth. Et c'est assez troublant de voir comme ce motif se répète. Et ce motif se répète aussi dans les récits d'Herbart. C'est-à-dire ce thème de la substitution. d'un personnage à l'autre, ce thème du dédoublement et ce thème de la substitution.
Résistant, libérateur de Rennes, libertin, débauché, ami de Cocteau, de Gide, de Martin Dugard, homosexuel, opiomane, un écrivain aimant Dostoïevski et la comtesse de Ségur, un terrible pique-assiette. Qui était donc Pierre Herbart, Raphaël Sorin ?
Ben, il a tout pour plaire, apparemment. Il était un peu tout ça. Mais c'est pas ça qui m'a attiré chez lui. C'est pas le côté homo, drogué, mauvais garçon. Non, ce qui m'a séduit, moi, c'est l'écrivain. C'est la ligne. Et d'ailleurs,
la ligne
il
de
raconte...
Force.
Oui, la ligne d'écriture, la ligne de force. Et le fait qu'il ait eu tous ces, entre guillemets, défauts, évidemment, pouvait me le rendre à mesure plus sympathique. Puisqu'il n'a jamais caché tout ça dans ses livres est indiqué de manière extrêmement pudique mais extrêmement claire, il n'a jamais rien caché sauf peut-être les histoires d'argent, bon ça on ne va pas rentrer dans les détails, mais à travers ses livres et puis aussi à travers des témoignages, puisque comme je me suis intéressé à lui, j'ai aussi parlé de lui avec des gens qu'il avait connus, on s'aperçoit qu'il avait une idée de lui-même assez fidèle à la réalité et que les gens qu'il connaissait l'aimait aussi pour ses nombreuses perversions ou défauts, sic.
Il était intempestif ?
Sûrement, voilà. Et ça passe dans ses livres. Hein. Cette ligne de force, elle existe, mais il y a aussi un côté ligne brisée. Personnage difficile à saisir, personnage qui devait se retourner souvent sur lui-même, enfin, qui ne se laissait pas attraper et qui voyait bien chez les autres tous les défauts, comme il voyait ses propres faiblesses. Hein, puisque le portrait qu'il a fait de Gide est absolument impitoyable. Et c'est quand même le portrait d'un homme qu'il a beaucoup aimé et auprès duquel il a passé de nombreux moments.
Mon affection pour Gide était sans complaisance. Celle qu'il me portait se nuançait peut-être de détours plus subtils. Un même sentiment, bien fait pour nous séduire tous deux, donnait à nos rapports une saveur particulière, l'inutilité de la feinte. « Avec vous, je m'entends à demi-mot », me disait-il souvent. Nous nous connaissions si bien.
1929, Pierre Herbart a 26 ans, il est sur la Côte d'Azur, à Roquebrune, dans une petite maison, la colline prêtée à Cocteau et à Jean Desbordes par Coco Chanel. Cocteau venait de gagner Paris pour corriger les épreuves des enfants terribles. Desbordes avait pris le train pour Naples. Pierre Herbart était donc seul. Et un matin, je crois que c'était le 17 mai 1929, il flânait sur la terrasse. Il entend des pas derrière lui. C'était André Gide. C'est ainsi qu'a commencé ce long compagnonnage entre Pierre Herbart et André Gide. On pourrait presque dire que Pierre Herbart faisait partie de la famille André Gide, puisqu'il a épousé la mère de sa fille Catherine, Elisabeth Van Rysselberg. Quel regard portez-vous sur ces liens, Roger Kempf ?
D'abord, ce qui m'a intéressé dans le passage que vous citez, c'est la suite. À peine a-t-il regardé Gide qu'il croit apercevoir sur sa main une horrible excroissance de chair. Ça donne le ton, ça donne un peu le ton du livre. Ensuite, il se renseigne pour savoir si cette espèce de verrue était vraie ou non. Gide dit non, et puis la petite dame, c'est-à-dire la mère d'Elisabeth Van Rysselberg, confirme la chose. Gide a été bien opéré de cette excroissance par un dermatologue. Enfin, je crois que ça donne un peu le ton du livre. Alors, vous parlez en effet de l'intimité d'Herbart avec tout le clan Gide. Dans le petit livre que je viens de publier, je ne dis jamais « le Vanneau », je dis « un bis rue Vanneau ». J'ai toujours été agacé par cette expression « le Vanneau » qu'utilise également Angelo Rinaldi lorsqu'il parle de Gide. Et pourtant, je crois qu'elle est infiniment juste, parce qu'elle rend compte du côté tribal ou corallien peut-être, de cette société, de cette petite société qui gravitait autour de Gide. Pierre Herbart n'a cessé d'être du côté de Gide, n'est-ce pas, physiquement, mais aussi intellectuellement. Il a beaucoup travaillé avec Gide, il l'a aidé à tirer des scénarii de certains de ses textes qui ne sont pas les meilleurs, Isabelle, puis plus tard l'adaptation des Caves du Vatican. Je pense que Gide avait beaucoup d'admiration pour lui. D'abord, Herbart était quelqu'un de très beau, de très vif, de très intelligent, mais aussi avec un côté neveu de Rameau, peut-être plus Picassiette que le neveu de Rameau, vivant plus ou moins au crochet de Gide. Ce qui étonne quand on parcourt le journal de Gide, chaque fois qu'il est cité Pierre Herbart, c'est que Gide est finalement extrêmement indulgent pour Pierre Herbart. Très indulgent jusqu'à dire « j'ai beaucoup aimé les défauts de Pierre Herbart ». Ben, les défauts, c'était beaucoup plus que les défauts. C'est quelqu'un qui coûtait très cher à son entourage, d'abord parce qu'il se droguait. Et lorsqu'il divorce avec Elisabeth en 1968, je crois, c'est parce qu'elle craignait d'être mise sur la paille par Pierre Herbart, n'est-ce pas ? Il se droguait, ça coûtait très cher, il dépensait énormément. Et rien ne m'amuse plus que de trouver mention dans son livre sur Gide de cette voiture de Gide contre laquelle il semble s'emporter, alors qu'au fond c'est lui qui voulait cette voiture américaine. Et Catherine Gide me disait « quelles histoires, les réparations, les pleins d'essence, etc. »
J'ai longtemps hésité avant d'accorder à tel ou tel trait du caractère de Gide une importance décisive. Entre l'orgueil, la coquetterie, l'égoïsme, je balançais. Trop de serrures résistaient encore. N'avais-je pas la prétention de découvrir le sésame ouvre-toi de cet être ? Je crois l'avoir trouvé. C'est la peur de décevoir et d'être déçu. La peur d'être le déçu décevant. Les exemples abondent dans l'œuvre de Gide, de cette étrange pusillanimité qui le fait se dérober soudain, ou au contraire se lancer en avant dans un effort désespéré pour triompher de sa crainte.
Est-ce que c'est Herbert ? Oui, mais c'est pas que je l'ai reconnu, c'est comme vous êtes venu au sujet de Pierre Herbert, vous montrer une photo, donc j'en déduis que ça doit être lui, mais je le trouve très différent de ce que je l'ai connu auprès de Gide. Est-ce que il était jeune à ce moment-là? Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées? Oui.
Sur cette photo-là, il a 18 ans.
Ah, vous m'en direz
tant. Mais regardez, il y en a une autre là, si je vous montre, voilà celle-ci. Mais là, il était plus vieux là. Ça devait être...
Mais c'est drôle, je trouve que c'est pas du tout son genre d'avoir le nœud comme ça.
Le nœud papillon ?
Oui, c'est drôle.
Vous l'avez connu quand vous étiez au secrétariat de
Gide. Oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire les années 50-51,
voilà.
Juste avant la mort de Gide.
Oui.
Quelle image vous vient quand on dit Pierre Herbart ? Vous le revoyez comment ?
Je le revois long plutôt que grand. Et puis, c'est peut-être un faux souvenir, mais il me semble que ses yeux étaient verts. Enfin, il me faisait l'impression un peu d'un serpent. Et, fait paradoxal, lui qui était communiste ou communisant, il m'ignorait totalement, moi seulement secrétaire Tandis que Martin Dugard, qui était un bourgeois, on avait des longues conversations qui m'apportaient beaucoup. Je me souviens que Gide avait dit à propos de Herbert, il fait des sauts périlleux, mais jamais sans filet. Je suis le filet. Et puis, Gide avait préparé de l'argent suisse pour sa fille qui devait aller en Suisse et ce fric avait disparu. Enfin bon. Et ce qui m'avait choqué, je dois dire, c'est Herbert critiquer, se moquer de la trop grande voiture que Gide avait achetée, mais d'une part, c'était une façon de faire sortir d'Amérique ses droits d'auteur, et puis c'était aussi pour lui, pour Herbert, pour le...
C'était même lui qui lui avait fait acheter.
Oui.
Vous avez pas discuté avec lui, alors il faisait pas attention à vous.
Non, j'existais pas, oui. Herbert arrivait, Gide, dès 9h, j'arrivais ponctuellement à 9h du matin, Gide était debout, habillé, prêt, tandis que Herbert apparaissait vers 11h du matin en peignoir, et puis il téléphonait à Claude Maillas qui venait de quitter, enfin longuement. Et après, j'étais stupéfaite en apprenant que lui, Herbert, avait été un des chefs de la résistance. À peine pouvais-je le croire. Mais... Il avait épousé la mère de Catherine Gide, oui. Et même, ils avaient eu un enfant qui n'avait pas vécu. Et d'une certaine manière, Elisabeth lui était très attachée parce que il avait été attaqué par je ne sais qui. Elle avait écrit une lettre de protestation qu'elle avait signée « Femme Herbert ».
Ah oui.
Oui. Mais elle lui permettait toutes les aventures homosexuelles, mais il avait eu une aventure hétérosexuelle. Là, elle ne lui avait pas pardonné et il serait mort de faim sans les garçons qui lui ont porté secours.
C'était un drôle de type, hein?
Oui, peut-être tout le monde, si on connaissait les gens à fond, chacun serait drôle de type, mais enfin, lui, ça se voyait.
Ces livres, les livres, vous en aviez lus?
De lui, j'ai lu deux. Mais deux manuscrits, je crois que c'était des manuscrits à ce moment-là. Il avait une écriture admirable, comme du cristal, enfin. Mais,
oui.
Mais il n'avait écrit que ces deux-là à cette époque.
Alors, à cette époque, il y en avait cinq qui étaient sortis. Il y avait Le Rôdeur, qui était son premier livre, 1931, Contre-ordre, 1935, URSS 36, 1937, Le Chancre du Niger, 1939, et Alcyon, en 1945. Et après, quand vous avez quitté Gide...
C'est-à-dire quand il est mort,
vous avez lu, par exemple, La Ligne de Force?
Non, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, la petite dame, c'est-à-dire Madame von Rosselberg, elle disait qu'il était divinement paresseux. Et moi, je me disais, pourquoi divinement? Est-ce qu'on peut être divinement paresseux?
Peut-être parce qu'il était beau.
Beau?
Non.
Mais on le trouvait beau. Moi, je ne trouvais pas beau. Oui.
Et ses rapports avec Gide, vous les avez vus ensemble?
Ah oui, c'était très frappant. Il parlait rudement, il interpellait rudement Gide. Il disait alors Gide. Gide aimait ça, visiblement. Et une fois, ça m'a fait penser à Merlin et Viviane. Cette scène où Viviane tourne autour de Merlin et l'immobilise. Et une fois Gide était assis dans son fauteuil, Herbert tournait autour de lui en lui parlant et Gide tournait la tête de tous les côtés pour pas le perdre de vue. Et quand il y a deux êtres, en somme, presque toujours, il y a un dominant et un dominé. Et là, visiblement, c'était Gide qui était dominé, oui. Il y a l'âge aussi, Gide était très vieux.
Et est-ce que vous pensez que Gide a permis à Herbart d'écrire?
C'est-à-dire, Gide avait un côté maître d'œuvre, enfin. Par exemple, quand j'étais sa secrétaire, j'avais pas beaucoup à faire et que j'ai commencé à écrire pour moi, il s'en rendait compte et il approuvait cela. Peut-être que Herbart n'aurait pas pu écrire sans Gide, c'est possible, ça.
Et vous pensez qu'il a bien fait d'écrire ces livres comptent?
Ce livre?
Est-ce que ces livres comptent à vos yeux?
Tout livre bien écrit, réussi, compte, fait partie de la littérature, oui.
Vous vous êtes jamais parlé?
Ah bon, il ne m'a jamais adressé la parole. Pour lui, j'étais un morceau de la machine à écrire, quelque chose comme ça. Et on ne peut pas dire que c'est parce qu'il était homosexuel, puisque Martin Dugard était homosexuel aussi et parlait avec moi longuement. Donc.
Mais vous n'avez pas essayé de brusquer cette attitude?
Ah non, je ne suis pas comme ça.
Mais ça vous faisait de la peine?
Non.
Non,
non, ça m'aurait fait de la peine si j'avais eu du sentiment pour Herbert, mais ce n'était pas le cas. Mais je l'ai trouvé intéressant, qu'il avait de la valeur, mais c'était étranger à ma vie. Oui. Mais je trouve qu'il n'avait pas raison, parce que j'avais déjà écrit deux livres que Gide avait aimés, donc pourquoi me néantiser comme ça, oui.
Le premier regard que jette Gide, je crois, sur Pierre Herbart est un regard de compassion. On ne se rend pas compte à quel point Gide avait une espèce de sens apostolique, de bonté vis-à-vis des gens qu'il rencontrait. Je crois que c'est dans le journal que Gide dit, voilà, j'avais grand souci d'arracher Pierre Herbart au cocktail, à la drogue, et à la désastreuse influence de Jean Cocteau. Et c'est dans la maison de Martin Dugard, au Tertre, que Pierre Herbart écrit ce livre. C'est pas, je crois que tout ça demande à être mis en relation. Personnellement, la première fois que j'ai vu Pierre Herbart, il était nu comme un ver. Je ne vais pas rapporter cette anecdote dans mon livre, mais Gide, se trouvant occupé à la NRF, m'avait demandé de lui téléphoner. Et rien n'était plus compliqué que de téléphoner dans cet appartement de gîte. On ne savait pas où se trouvait le téléphone. Tout était terriblement mal arrangé. Enfin, tout daté au fond du 19e siècle, hein, bien que postérieur. Et alors, je me dirige instinctivement au fond de l'appartement. Il y avait là un couloir très étroit, tapissé de livres. Et je frappe à la porte du studio que je savais occupée par Pierre Herbart et où avait vécu autrefois Marc Allégret. Une voix me dit « Entrez ». J'entre et je vois Pierre Herbart totalement nu, en train de s'ébattre avec un jeune homme et prenant tout juste la peine de tendre un bras vers une petite table où se trouvait le téléphone. Ça, c'est mon premier souvenir d'Herbart. Je n'étais pas bégueule, mais enfin, cette scène m'avait beaucoup inquiété et je m'étais dit qu'il valait mieux garder ses distances par la suite. Il est certain que si Pierre Herbart avait eu une espèce de discipline, ben, il aurait produit une œuvre considérable.
C'était un dandy pour vous, Pierre Herbart ?
C'était un dandy dans la mesure où il avait un profond mépris de l'argent. Il n'y avait aucun sens de l'argent. L'argent le dégoûtait. Et je crois qu'inconsciemment, il aurait ruiné. Enfin, il aurait ruiné beaucoup de monde. Et dans la préface peut-être trop allusive qu'elle fait à la réédition de la recherche d'André Gide, Elisabeth Porquerolles dit très bien que même milliardaire, il aurait échoué dans la misère. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Gide, lui, était extrêmement économe. Il n'était pas pingre, comme on l'a dit, puisqu'il donnait beaucoup d'argent à ses amis. C'est vrai, il faisait vivre beaucoup de monde, tout de même. Il était pingre, oui, pour les pourboires sur les tables de restaurant pour ces choses-là, mais pas du tout pour le reste. Herbart a quand même vécu au crochet de Gide jusqu'à la fin. Mais c'était une espèce de dandy, oui.
Ce que je crois, c'est que sa faiblesse était qu'il avait besoin d'argent. Et que donc, ayant besoin d'argent, il ne pouvait pas assumer son personnage jusqu'au bout. Ce personnage d'insolent, forcément, il y a un moment donné où il devenait mendiant.
J'écris ces lignes par faiblesse. Si j'étais fort, je n'écrirais rien. Je dompterai la vie. Je serai le maître de mes désirs et de ceux des autres.
Ce qu'il cherchait, c'était à échapper au quotidien, à la réalité. C'est l'homme qui vivait la nuit.
Mais qui aimait quand même vivre.
Nous avons vécu 8 ans, très proches. Et je ne crois pas m'être ennuyé 10 minutes. Lui non plus, je l'espère. Mais ce qu'il voulait, c'était une sorte de royauté intérieure, d'indépendance totale par rapport à tout ce qui était contingent. Il n'aurait jamais gagné de l'argent. C'était très difficile.
Qu'est-ce que vous dites, vous, devant, parce que vous l'avez aimé, mais oui. Le côté pique-assiette terrible et terrifiant qui s'est rendu insupportable à certains.
C'est rendu insupportable à ses éditeurs, surtout. Mais enfin, Gaston Gallimard l'adorait, donc il faisait ce qu'il voulait. Mais c'était un homme qui avait très peu de besoins, vous savez. Il ne faut pas croire du tout que c'était quelqu'un qui vivait sur un pied. Il a beaucoup plus apporté à Gide, par exemple, que le contraire. Il était à ce moment-là en Russie soviétique, responsable du département culturel. Et c'est lui qui a, d'une certaine manière, convaincu Gide de revenir, de faire ce voyage en URSS et d'écrire ensuite le compte-rendu de ce qui a été quand même une des plus immenses déceptions. Mmh. Et une déception importante pour toute une jeunesse et qui était très courageuse. Gide n'a pas seulement écrit Coridon, il a quand même écrit Le retour du URSS, et ça c'est Pierre qui l'a... Mais il était... Il n'attendait rien de personne. Il vivait légèrement, très très légèrement. Il n'avait pratiquement aucune exigence, sinon, effectivement, d'arriver à trouver, mais ça, comme tous, d'arriver à trouver le minimum d'opium pour oublier tout le reste.
Et l'écriture, de quelle façon a-t-elle compté dans sa vie ?
Il écrivait de la manière la plus légère du monde comme il vivait. Ça venait. D'ailleurs, sa syntaxe est légère. Il écrit, c'est une plume. C'est le cas de le dire. Mais non, mais c'est vraiment rien. C'est rien. On ne le sent pas, on ne sent pas l'écriture. De même que on ne le sentait pas, on ne sentait pas sa personne physique, il ne pesait pas. Il était léger.
Le premier livre que j'ai lu, c'est Le Rôdeur. C'est un livre que je trouve magnifique, d'ailleurs.
C'était son premier livre, d'ailleurs.
Qui était d'ailleurs son premier livre. Un livre que je trouve magnifique. Moi, je le place dans une bibliothèque, si vous voulez, entre Le Feu Follet et Le Bleu du Ciel. Il y a quelque chose de très désespéré dans ce livre. Il y a un sens de la solitude... qui est exprimé avec une force extraordinaire. Et il y a déjà cette écriture qui n'a pas beaucoup varié, d'ailleurs, du début à la fin, si on compare l'écriture du rôdeur et celle de l'âge d'or ou de la licorne même, il y a la même limpidité d'écriture, la même simplicité. On dit beaucoup sécheresse, mais en même temps, c'est pas encore. Il y a une économie très grande de moyens, une économie de mots, mais c'est pas non plus une écriture dénuée de tendresse. Et dans le rôdeur, un côté un peu somnambulique comme ça de sa prose, qui est peut-être lié justement à l'opium. Et qui, de toute façon, je crois, est lié à une attitude d'Herbart en général, qui est une attitude de recul. Capacité extraordinaire chez lui, je trouve, enfin assez rare, d'avoir pu s'engager dans des moments forts comme le communisme avec son séjour en URSS, le voyage de Gide en URSS, ensuite la guerre d'Espagne, et puis la résistance où il a été quand même beaucoup plus actif que pendant la guerre d'Espagne, parce que pendant la guerre d'Espagne il n'a pas fait grand chose, il faut dire. Mais enfin, il y a quand même cet engagement, et en même temps, toujours, il n'est pas dupe.
un soir d'août 1939, j'étais étendue dans une chaise longue sur ma terrasse à Cabris. Un ami nous avait rendu visite. Nous devisions paresseusement. La nuit tombait avec une lenteur magique. Les pentes des montagnes à l'horizon changeaient de couleur, comme dans leur bain chimique virent les pellicules photographiques que l'on développe. En regardant le ciel d'un vert très pâle, et qui lui aussi virait, je me demandais ce que les médecins entendent exactement par « douleur exquise ». Je me levai. « Il va y avoir la guerre, » dis-je. Ma femme et notre ami éclatèrent de rire. « Peut-on savoir pourquoi ?» Je montrai le ciel bleuissant. « Vous ne voyez pas que la nuit se retire tout à fait en elle-même, qu'elle a rompu avec la terre, qu'elle s'esquive. » Dans les premiers jours du mois de mai 1944, Maurice Presto, chargé par le mouvement Défense de la France d'organiser la résistance en Bretagne, est arrêté par les Allemands et fusillé le 9 juin. Pierre Herbart était à Paris, de retour du sud-ouest de la France, où il avait mis au point avec Yves Salle des filières vers l'Espagne pour des jeunes réfractaires du STO. Il est envoyé à Rennes pour remplacer Maurice Presto. Et c'est là, à Rennes, Maurice Delarue, que vous faites la connaissance de Pierre Herbart.
Oui, j'ai été. C'est pas moi qui étais chargé de l'accueillir à la gare, mais celui qui l'accueillait m'avait donné rendez-vous avenue Janvier, hein, ça devait être à 100 mètres de la gare. Et on s'est rencontrés là, sur le trottoir. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. C'était un homme qu'on n'oubliait pas facilement. Il avait un air à la fois décontracté, ironique. On ne parlait pourtant que de choses très sérieuses. Et moi, il m'a chargé, moi, de continuer à faire ce que je faisais à Presto, et ce que je faisais avec Presto, et que je faisais déjà depuis assez longtemps, c'était de la prospection. Et il m'a demandé, Pierre Herbart m'a demandé, alors Pierre Herbart, je l'appelle Herbart, mais on l'appelait Le Vigan. Et Le Vigan m'a demandé de continuer à faire ça, mais il m'a aussi donné un autre rendez-vous, je vous dis vraiment quelques jours après. Et là, j'ai fait sa connaissance d'une façon beaucoup plus précise. Alors, il m'a demandé plusieurs choses, et notamment j'ai eu une conversation très importante avec lui, dont je me rappelle très bien, parce que ce rendez-vous était au Tabor à Rennes, c'était le Tabor, c'est le jardin public de Rennes, à côté d'une église qui s'appelle l'église Saint-Mlaine. On avait rendez-vous auprès d'une statue dans ce jardin public. Et là, alors, il m'a fait une chose qui m'a sidéré. Et il a sorti de sa poche une carte. Il m'a montré cette carte et m'a dit « Écoutez, je ne suis pas... ne croyez pas que je sois... que je vais vous livrer des secrets militaires. » Mais le débarquement va avoir lieu là. Et il montre sur la carte la côte entre l'embouchure de la Seine et la presqu'île du Cotentin. Mais le doigt dessus. Il me dit « Pourquoi là ?» Il dit je n'en sais rien, je le déduis, comme tous ceux qui pensent un peu à ces questions. Parce que là, il y a des plages sur lesquelles on peut débarquer. Et logiquement... Les Alliés doivent débarquer là-dessus. Logiquement, ils devraient s'emparer d'abord de Cherbourg pour avoir un port à proximité de l'Angleterre. Et conclusion, libérer Rennes avant de libérer Paris. Ça, c'est une chose. Et Rennes nous intéresse particulièrement. Pourquoi ? Parce que Défense de la France, qui était le mouvement appartenant au Front de Libération Nationale, mais qui était le mouvement principal dans lequel j'étais, moi et lui, eh bien, Défense de la France publie un journal qui tirait à des centaines de milliers d'exemplaires. C'était quelque chose d'assez étonnant, mouvement monté par Philippe Vianney et quelques autres. Et qu'on a l'ambition, eh bien, de publier le premier journal libre à l'échelle nationale. Et puis alors, il y avait encore une autre préoccupation qui s'est affirmée bien plus après. qui a été de préparer, et ça, ça a été la principale occupation jusqu'à la fin, de préparer la mise en place des autorités nouvelles avant l'arrivée des Américains. Quand je l'ai connu, je ne savais pas que c'était Pierre Herbart. Mais je savais qui était Pierre Herbart. Un peu par hasard. Mais là, je peux vous raconter la scène qui m'a fait trouver tout de suite, mais vraiment, à notre deux ou troisième rencontre, on avait donc des discussions tout de suite. Il m'avait indiqué ce qu'il était chargé de faire, installer donc de nouvelles autorités, etc. Et évidemment, à un moment dans la conversation est venue l'expression que tout le monde connaissait un peu partout, il faut coiffer les communistes au poteau, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de coiffer les Américains, c'était une chose, mais les communistes, ils étaient très actifs en Ille-et-Vilaine, dans toute la Bretagne, moins actifs que dans d'autres régions de France, mais quand même, ils comptaient beaucoup. Et chacun, c'était des mouvements un peu frères en principe, mais rivaux, sans aucun doute. Mais alors, on parlait, évidemment, on parlait beaucoup, il était bavard, on parlait politique, on parlait de tas de choses. Et à un moment, dans la conversation, il a une phrase où il me parle de du dictateur Staline ou du tyran Staline, quelque chose comme ça. Moi, je lui cache pas à ce moment-là que j'étais un peu choqué, parce que, de même d'ailleurs que j'avais été surpris quand il m'avait montré cette nécessité de coiffer les Américains au poteau. Voilà, maintenant, il fallait coiffer les communistes au poteau. Moi, je me disais que, étant donné l'époque, le débarquement n'avait pas encore eu lieu. C'était que, bon, la première chose, c'était de bouter les Allemands hors de France avec n'importe qui, les Américains, les communistes, etc. Alors, il me dit, oui, bien sûr, je vous comprends bien, etc., etc. Mais il ajoute, il a cette phrase, il m'a dit, en tous les cas, vous ne les connaissez pas comme je les connais, les communistes. Ah, mon dieu. Et il ajoute, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, c'est moi qui ai piloté André Gide en URSS. Ah, bon. La conversation s'arrête là, je le revois le lendemain ou le surlendemain. Et là, bon, il se trouve que j'ai été lecteur de Gide, que j'ai été lecteur en particulier du Retour de l'URSS. Et alors, ben, le lendemain, notre rencontre suivante, je dis à Herbart, écoutez, il vaut mieux que je vous le dise, je sais qui vous êtes. Vous êtes Pierre Herbart. Alors, là, il a détourné la conversation. Aussitôt d'après la libération, il y a une chose, moi je l'ai beaucoup moins vu à ce moment-là, puisqu'il m'avait embauché pour faire ce nouveau journal, mais lui s'est beaucoup occupé, par exemple, et il s'était fait nommer vice-président du comité de libération. Vous savez qu'il y a des comités de libération qui se sont installés. Or, ces comités avaient été prévus là par des organisés entre des Rennais, avec des Rennais. Lui, il n'était pas du tout. Il fallait qu'il s'introduise là-dedans. Et là, son rôle a été, je me rappelle qu'il s'en est, on n'en a pas beaucoup parlé, mais visiblement, ça le préoccupait, d'éviter des exécutions, des exactions, etc., comme il y en a eu. Il n'y en a pas eu terriblement à cet endroit-là, ça n'a eu rien à voir avec ce qui s'est passé ailleurs, mais c'est un petit peu à lui qu'on le doit, et vraiment, il ne voulait pas, c'était pas du tout un sanguinaire, c'était pas non plus vraiment un cynique, il était préoccupé par ça, c'était un homme de cœur, finalement.
atteint par le mal du siècle, je cherche depuis 20 ans quel message je pourrais apporter aux hommes. L'idée de ce message a terriblement handicapé mon existence. J'ai commencé, comme tout le monde, par le communisme. Autant l'avouer aussitôt, les résultats de l'expérience furent décevants.
Il était, Herbart était sans doute tout ce que Gide n'osait pas être vraiment. Et c'est sans doute aussi ça qui a poussé Herbart à être un militant communiste, un vrai militant communiste, d'aller aller jusqu'à Moscou, à l'école centrale, à travailler avec l'équipe de Boukharine, qu'il a très bien connue, ensuite à être dans la résistance. Mais dans la résistance, lorsque je lui ai parlé de la résistance, il m'a dit que c'était parce que la cocaïne lui arrivait de Londres, quoi. Et que donc c'était une excellente manière d'être finalement de cultiver son vice tout en étant dans le bon parti. Alors c'est sans doute vrai, c'est sans doute vrai que la résistance lui apportait des facilités financières vu l'importance de son rôle, puisqu'il avait rang, dit-on, de général. Ça, je suis un peu dubitatif, mais bon, en tout cas d'officier supérieur et en tout cas de chef du maquis, donc de responsable militaire en tout cas de la zone Bretagne. Donc il avait de l'argent, l'argent arrivait, comme à tous les militants professionnels, et en plus de l'argent, devait arriver sans doute de la cocaïne, sous une forme peut-être qui ne devait pas être tout à fait la cocaïne, mais sous la forme d'analgésique, d'antalgique, comme on dit plutôt, mais dont il se servait à des fins autres. Alors ça, c'est sans doute qu'il en a profité, mais c'est pas vrai qu'il est allé dans la résistance uniquement pour ça. Il aurait été collabo. Il aurait sans doute eu la même cocaïne, en la payant sans doute, mais il l'aurait eu. Donc il a quand même choisi chaque fois le bon camp, si je puis dire. Même si on peut se demander si en 36 c'est le bon camp. Mais quand même, c'est le bon camp. Donc ça, c'est je crois quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, surtout quand on pense à La recherche d'André Gide, qui est un texte profondément irrespectueux et profondément déplaisant, qui n'est pas un texte fait pour plaire, et qui un texte qui a mené la rupture entre lui et les Gidiens, quoi. Ça, c'est évident, hein. Ils ont mis longtemps à lui pardonner.
J'ai là quelques lettres de lui. Il y en a une où il me dit ça en parlant des difficultés qu'il avait à la Libération quand il a voulu faire le journal Terre des Hommes, qui n'a pas bien marché, qui n'a pas marché longtemps. Et il me dit à un moment, il me dit un peu d'arranger les choses. Je ne citerai pas le nom, mais il y avait des tas de tiraillements au sein du MLN. Attendez, je recherche ça. Ça, c'était en 45. Alors, il me dit pas mal de mal de gens. Il me dit un tel est un imbécile, enfin, etc., etc. en deux mots. En deux mots, voici la situation. Alors, il me décrit. Mais il termine par cette phrase. Ne perdons jamais de vue que tout cela n'a aucune, et c'est souligné, aucune importance.
J'étais confronté de la façon la plus grossière au fait colonial et j'avais réagi par la colère, à la façon des hommes de notre temps. En Chine, par lassitude peut-être, par dégoût de ce que je venais de vivre, je m'étais enfin laissé aller à ma vraie nature toute de recul devant la frivolité des choses sérieuses. Ainsi avais-je rejoint l'univers grave et distrait qui constitue pour moi cet essentiel dont je regrette tant de m'être souvent laissé déprendre. Comme les Chinois, je trottine, complètement absent de moi-même. Je prends des rues et d'autres rues. Je change de trottoir sans raison. À force de marcher comme eux vers quelque chose d'incompréhensible pour moi, je me sens devenir pareil à ces Chinois. Je suis comme l'homme des foules. Et de quelle foule ? J'abdique. Alors, je vis la chose. Oui, je marchais depuis un certain temps derrière un vieux Chinois en robe noire, réglant mon trottinement sur le sien. La chose, c'était une sorte de petit trapèze qu'il avait à la main au bout d'un bâton et qu'il tenait en l'air comme on brandirait une canne. De la barre du trapèze pendait je ne sais quoi qui me parut une loque grise accrochée là. Je trottinais plus vite jusqu'à frôler du nez la loque. Impossible de comprendre ce que c'était. Il est vrai que je suis myope et par coquetterie ne porte pas de lunettes. Nous allâmes ainsi de concert fort longtemps, le vieillard, sa loque et moi. Rue brillamment éclairée, rue sombre, vacarme et silence. Et Canton déroulait sous nos pas son obscure géographie. J'en étais arrivé à n'être plus rien du tout, l'état que je préfère. Simplement, je suivais le Chinois. Le léger balancement de la loque rythmait notre marche. Cela dura près de 2 heures. Je m'en aperçus plus tard. Le vieillard s'arrêta brusquement devant une porte surmontée d'une enseigne au néon. Et je compris, je vis ce qu'était la loque. Une chauve-souris qui pendait, endormie, les pattes accrochées à la barre du trapèze, les ailes lui recouvrant le corps et la tête. Je restais figé sur place, tandis que le vieillard continuait sa route, promenant sa chauve-souris dormante comme d'autres baladent leurs chiens. Vous me demandiez ce qu'était la Chine ? Pour moi, c'est cela. C'est ma ligne de force. Celle qui passe par le parc aux singes de Singapour et par la petite fille qui vendait le général Dourakin. Celle qui donne un sens à la vie. Oui, cela même dont j'ai si souvent abandonné la poursuite pour m'occuper de rien. La colonisation, le communisme, la guerre d'Espagne, la résistance, que sais-je.
C'était un velléitaire par certains côtés. Il avait des passions, il avait beaucoup de passions contre. Je vous ai parlé de quelques déceptions. Il en a eu d'autres même après, puisque à un moment il s'est mis, Gallimard l'avait chargé de mettre en forme les papiers de Roger Martin Lugard, dont la publication n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Mais pour ça, il n'était pas du tout fait pour ça. J'étais certain, moi, que ça n'irait pas loin, qu'il n'irait jamais jusqu'au bout, parce que c'est l'œuvre d'une vie, ça. Mais il a été, bon, à combat, les choses allaient bien, mais bon, combat avait eu des tas d'aventures, et à un moment, assez tôt, Herbart s'est retrouvé sur le sable. Et l'époque dont je veux parler, là, est avant la mort de Gide, mais ça a été encore beaucoup plus mal après la mort de Gide, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Gide, après la mort de Gide, tout ce groupe qui vivait autour de lui, qui vivait avec lui, au fond, Gide était un homme très généreux, il faisait vivre tout ce monde-là, c'était un monde en soi, Gide, et en 1947, on a essayé, François était parti en flèche, ça avait très bien marché, lui qui l'avait amorcé, et je crois que c'est celui qui était le vrai rédacteur en chef à Rennes, qui était Maurice Felu, qui était venu à Paris après, me dit un jour, oh, faut qu'on dépanne un peu Herbart parce que ça va mal, parlez-en aussi à Lazarev qu'il connaît pas, bon, moi je lui en parle, etc. Et Lazarev dit, ben, pourquoi pas lui faire faire une enquête en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, à l'époque, il se passait encore rien. C'était en 1947. Et il se passait rien du tout. Jusqu'en 54, on peut dire qu'en Algérie, il s'était passé quelque chose, évidemment, à la libération, les émeutes de Sétif. Mais ça avait été noyé dans le sang. Et depuis, c'était le calme plat. Pendant le reste de l'Afrique du Nord, ça bougeait déjà en Tunisie, au Maroc. Mais en Algérie, rien. Et donc, je pense que c'est Felu, peut-être que j'en ai dit un mot, moi, pour qu'on pourrait faire à Herbart un reportage sur l'Afrique du Nord. Il s'intéresse à ça. Fait un reportage à l'Afrique du Nord, il va en Afrique du Nord, il revient avec des notes, et moi je n'ai pas revu ces papiers avant qu'ils paraissent, mais le 14 avril 1947, François commence un grand reportage qui s'intitule, alors le titre déjà était tout un programme, SOS Afrique du Nord. De la part de François, c'était très culotté, parce que en 47, encore une fois, il ne se passait rien, il se passait des tas de choses ailleurs. SOS Afrique du Nord, une grande enquête de Pierre Herbart. Titre du premier papier, « Demain, tout l'islam peut flamber ». Voilà, on annonce les couleurs. Hein. Après ce premier papier, on en annonce un deuxième qui soulève la question des oulémas qui ont joué un grand rôle à ce moment-là. Et ce deuxième papier s'intitule, enfin, trois hommes m'ont dit, etc. Il donne la parole à un officier, un colon, un fonctionnaire. Bon. Et on annonce un troisième papier. Et ce troisième papier était annoncé dans François, prochain article, un vent de panique. Et ce papier n'a jamais paru, et l'enquête s'est arrêtée là, sans explication. Mais c'était un papier prophétique. Et ce papier-là, tout le monde l'a oublié. Je voudrais bien que quelqu'un réédite ces papiers-là, parce que ce sont, en 47, si on l'avait écouté, eh bien, l'histoire eût pu être changée.
L'été ne retrouva plus sa gloire. Je soupçonnais en toute chose une fêlure, une dégradation secrète. Et pourtant, je me souviens, à la fin août, de journées dévorantes, explosant comme un incendie, et que la nuit même ne parvenait pas à étouffer. Pierre Herbart, il semble qu'il y ait comme l'imminence d'une catastrophe qui n'arrive pas, mais qu'on sent très bien sous les mots. Est-ce que ça vous apparaît comme ça aussi ?
Effectivement, ce côté funambule qui est... il compare d'ailleurs un personnage du Rôdeur à un funambule... qui marche sur la mort comme ça, donc qui est au bord effectivement de l'abîme ou de la catastrophe comme vous disiez, et qui est en même temps à la fois prisonnier d'une espèce d'impuissance, d'une espèce de faiblesse, et qui est en même temps animé par une force qu'on retrouve bon dans le titre La ligne de force. C'est ça qui est assez aussi, je trouve, attachant chez ce personnage, c'est que et chez les personnages de ces récits, c'est que la force en eux se régénère toujours dans la faiblesse. Elle est une force qui ne craint pas la faiblesse, quoi. Avec ces alternances toujours des rencontres et puis des fuites, des séparations, des ruptures. Hein. Il y a toujours... Herbart était, un être de rupture, un être d'attachement très vif, très prompt, et en même temps de rupture, d'esquive, de fuite.
Puis alors là, je peux vous lire aussi sa toute dernière lettre. Alors celle-là est de 1970. Votre lettre m'a fait plaisir. Moi aussi, j'avais perdu vos coordonnées. C'est du vocabulaire de la résistance. Je les ai retrouvées parce que vous figurez sur le service de presse de Grasset. Bon. 10 ans que nous nous sommes vus, me dites-vous, c'est bien possible. Moi, j'ai tout perdu. Mon fils unique. Ma, entre parenthèses, seconde femme. Fermez la parenthèse. Mes amis, Gide, Roger, Martin Dugard, Camus, Schlimberger. J'ai aussi perdu la santé. Je suis vieux, vous savez. Si je viens parfois à Paris, oui, rarement, parce que Paris, c'est loin, 450 km, et que je n'y ai pas de logement, et que cela coûte cher. Tout de même, je ne manquerai pas de vous voir si j'y vais. Bon. C'est un vraiment. C'était, il s'enfonçait dans la détresse et il est mort là-dedans, comme le raconte le livre d'Henri Thomas.
Le goût de l'éternel.
Le goût de l'éternel, oui.
Béatrice Beck dit qu'il avait les yeux verts.
Bleu-vert. Pas vert-vert, vraiment. Il avait des yeux bleus, un peu. Oui, bleu. Bleu-vert. La peau toujours assez basanée parce qu'il avait, il vivait dans le Midi.
Cette photo-là, il vous regardait. On a l'impression qu'il parle. Oui.
Il me regarde. Je l'ai en petit. Je vous montrerai la photo. Effectivement, il me regarde.
Il vous a appris quelque chose ?
Oui, on apprend toujours. D'abord, les, ce ne sont pas les autres qui vous apprennent quelque chose. C'est ce qu'on éprouve pour eux qui vous apprend le plus. La leçon vient de soi, au fond. Elle vient par carambolage, mais elle vient de soi. Je ne crois pas qu'il m'ait appris. Il m'a révélé, plutôt.
Moi, la littérature, c'est le moment où, brusquement, l'autre me parle, et me parlant de lui, il me parle de moi. Forcément, je me reconnais. C'est ça, ce qu'on a, quand les gens disent « Ah, le nombrilisme ah, », c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, mais le moi de Herbart est un moi qui me touche et qui me bouleverse.
Le bonheur, c'était quoi pour Pierre Herbart ?
Je crois que c'est quelque chose d'impossible. Hein. C'est un paradis perdu. Je crois qu'il n'a jamais vraiment connu la tranquillité. D'ailleurs, les témoignages que j'ai pu avoir comme ça, de gens qui l'ont fréquenté, c'est un homme qui vivait dans l'inquiétude et dans le trouble. Et il ne pouvait se maîtriser ce trouble et cette inquiétude que dans l'écriture. Alors, je crois que le bonheur, il n'a jamais d'illusion. Il y a peut-être des instants de bonheur. Le bonheur passe par le plaisir physique, sans doute par la rencontre avec l'être aimé. Bon, il y a des moments de tendresse, hein, sans doute, d'étreinte, mais on sent que c'est des moments extrêmement fugitifs et qu'en gros, il y a toujours déjà la menace de la mort. La mort est très présente partout. Et puis, il y a l'idée que tout est périssable.
L'acharnement que j'ai mis pendant 30 ans à me détruire serait sans conséquence s'il ne s'était tourné contre ceux que j'aimais, c'est-à-dire tragiquement contre moi-même. Cette intranquillité, elle lui vient de l'enfance ?
Sûrement, oui, parce qu'il a une enfance, je crois, assez peu banale avec un père. Au fond, il a un père qui n'a pas écrit, mais si le père d'Herbart avait été écrivain, il aurait écrit comme Herbart. Et si Herbart s'était laissé aller, il n'avait pas trouvé une sorte de refuge dans la littérature, dans certaines amitiés, peut-être qu'il aurait fini... il est mort un peu clochard, un peu comme son père. Il a fini un peu comme son père. Hein. Je crois que là, il y a une sorte d'impossibilité à adhérer à une vie normale, une vie tranquille, à une profession, à un cadre, à un sexe même, puisqu'il est passé... Bon, la bisexualité. Et puis, quand il décrit l'enfance, hein, l'enfance qui est un thème qui revient souvent, c'est vraiment à la fois le paradis perdu, l'âge d'or, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas vraiment vécu. C'est toujours quelque chose qui est lointain, quelque chose qui et dès l'enfance même, il y a du danger, il y a la mort qui est présente. Mais on ne va pas faire la psychanalyse d'Herbart. Il aurait détesté ça. Il a écrit lui-même des souvenirs imaginaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Pierre Herbart, le grave et le distrait. C'était un chat.
C'était un chat. Un chat, oui, oui. rentrer. On ne l'entendait jamais venir, jamais partir, jamais bouger. C'était un homme pieds nus.
Avec Raphaël Sorin, Jérôme Dastier, Charlotte Ayot, Roger Kempf, Béatrice Beck, Maurice Delarue et Gérard Guégan. Texte lu par Éric Herson-Macarel. Bibliographie. Réédition aux éditions du Promeneur. La Licorne, Alcyon, L'Âge d'or, texte retrouvé, Souvenirs imaginaires, à la recherche d'André Gide. Aux éditions Gallimard, La Ligne de force, collection Folio, et Le Rôdeur, collection imaginaire. On peut aussi lire Le goût de l'éternel de Henri Thomas aux éditions Gallimard, ainsi que À feu vif de Gérard Guégan aux éditions Lattès, dont un court extrait a été repris dans Les inédits de Pierre Herbart, publié par les éditions Le Tout sur le Tout. Surpris par la nuit, Alain Fauché, Arthur Gerbault, Guillaume Ledu, Jean-Michel Coqui, Sylvain d'Angoise, Stéphane Desmonts, Lionel Quentin, Catherine Soulard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 mai 2000.